Est-ce que tu peux nous présenter un peu Fiscal, Pauline, le pitch de Fiscal?
Alors, Fiscal, c'est une pièce chorégraphique dans laquelle Nolwenn et moi, on apprend à skater. Et Damien et Basile apprennent à danser. Donc, c'est une transmission de nos savoir-faire. Et cette pièce sert à mettre en lien en fait la culture, les valeurs de la culture bretonne par la danse avec les valeurs du skate telles que Basile et Damien le défendent.
Et comment est née l'idée de cette pièce? C'était l'objectif, c'était ça. Tu voulais que les deux cultures se rapprochent.
Alors à la base, à la toute base, c'était pas ça l'objectif. Il y en avait même pas. C'est né d'une proposition de Basile en fin de soirée. et en fait, il m'a montré comment on pouvait skater sans forcément prendre des risques et sans avoir besoin de technique. Enfin, si, en fait, c'est une sorte de technique. Mais peut-être que vous les avez vus le faire hier soir, il me semble.
Oui, c'était les deux gars qui faisaient un moonwalk, mais sans le plancher, sur le dos, pendant le concert de Pavan et Bjorn. Et c'était merveilleusement beau, en fait.
Oui, en fait, c'est un défi qui m'a lancé et que j'ai trouvé chorégraphique. Au final, c'est de faire d'être allongé avec la planche sur les pieds et de faire un tour en fait, un roulé boulé, de rouler sur soi-même sans faire tomber la planche. Donc voilà, j'ai vu quelque chose de chorégraphique et de très, j'ai eu des images en fait dans la tête. Donc ouais, très graphique au début et après, l'idée a évolué.
Et Damien, est-ce que la danse était déjà dans ton parcours ou un autre art de la scène ou pas du tout ?
J'ai déjà chanté dans des comédies musicales. Ma sœur fait de l'opéra, elle organise des opéras et des comédies musicales et tout ça. Donc j'avais déjà chanté dans des comédies musicales. Et pour ce qui est de la danse, sans vraiment le conscientiser, au final, oui, je pense que déjà ma pratique du skate était assez... J'ai toujours déjà aimé avoir les bras très libres quand je skatais, par rapport à un skate qui, à mes yeux, est de plus en plus en train de se robotiser, en tout cas dans les grandes compétitions et tout. On dit qu'il faut du skate propre, il faut les bras le long du corps et tout. Mmh. Je pense que moi, j'ai toujours revendiqué justement de laisser vivre mes bras dans tous les sens. Donc je pense que d'une certaine manière, en skatant, j'avais déjà un skate un petit peu dansé quand même, plus en tout cas que d'autres personnes.
Ouais.
Voilà.
Basile ? Est-ce que la danse faisait déjà un peu partie de ta vie avant ou pas du tout ou...
Alors, pas trop. Alors, quand j'étais jeune, j'avais un certain penchant quand même un peu pour la danse. J'ai fait quelques cours de modern jazz jusqu'à l'âge de mes 12 ans, peut-être. Mmh. Et après, c'est là qu'est arrivé donc, le skateboard pour moi, simplement en marchant sur une planche dans un buisson, d'ailleurs. Et effectivement, ça a été la rencontre assez spontanée avec le skateboard. Et j'ai pu faire quelques années de danse parce que ça me plaisait beaucoup, ce côté artistique. Mmh. Après, sans m'en rendre compte, un peu par hasard, je l'ai retrouvé finalement avec le skate, qui lui m'a donné une autre facette en fait de ce côté artistique. Et aussi, j'ai trouvé ça beaucoup plus libérateur de pratiquer le skate parce que je pouvais le pratiquer partout, alors que les cours de moderne jazz, c'était uniquement, c'est un peu académique, hein, c'est en salle et tout. J'aimais bien le concept, j'avais des bons copains, mais le skateboard, ça m'a permis vraiment de sortir des murs avec cette capacité de pouvoir proposer toujours des figures sur du mobilier urbain et de m'épanouir plus profondément et sans aller à un cours. Ça a été un petit peu ça. Ouais.
Et pourquoi tous les deux vous avez accepté de rentrer dans le projet Fiscal en fait? Parce que quelque part vous sortez de votre zone de confort. Alors certes, il y a l'intérêt du skate, mais je crois que Pauline très vite vous a quand même dit que elle, si elle dansait et qu'elle apprenait le skate, fallait que vous, les skateurs, vous fassiez un peu de danse. Comment est-ce que vous êtes entrés? Pourquoi vous avez accepté?
Pour ma part, après je te laisse le micro, hein. Je pense qu'on a aussi des visions différentes de voir la chose et c'est hyper riche aussi de pouvoir s'échanger ces choses-là. Moi, je l'ai vu clairement comme un défi à relever, mais aussi une façon d'approfondir quelque chose que j'avais laissé de côté, donc le côté danser, Donc quand j'ai arrêté à l'âge de 12 ou 13 ans, je ne sais plus trop. Et j'avais l'impression de laisser quelque chose de côté qui me plaisait et qui m'appartenait aussi. Le skate m'a permis de faire autre chose, mais de le retrouver donc grâce à la proposition de Pauline et aussi de le faire surtout avec des amis aussi chers que eux, hein, faut le dire. Et ben ça m'a quand même motivé à continuer ce projet et à aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on y croit. Et les phases de création sont pas évidentes et longues. Alors ben on y va jusqu'au bout. Et c'est surtout le côté challenge, ouais, qui m'a fait partir sur ce projet. Et du coup, ce que j'ai perdu avec la danse aussi avant.
Damien,
pourquoi moi j'ai accepté je pense que j'étais clairement en quête de sens. Je ne savais pas vraiment quel sens ni quoi que ce soit, mais je trouvais que une partie du skate, une des parties du skate qui est la plus médiatisée, vraiment me parlait de moins en moins, on va dire. En particulier avec toutes les grosses compétitions, avec une démocratisation du skate qui se fait de plus en plus via une professionnalisation. Bref, beaucoup de choses qui sont très très bonnes pour le skate et à la fois qui lissent un petit peu une culture et qui s'écartent progressivement de la dimension plus artistique du skate, artistique, politique, toutes les autres dimensions en fait, qui sont des choses qui sont pas vraiment jugeables, qui sont pas... Bref, en tout cas, j'étais dans cette quête de sens et du coup, je savais pas vraiment ce que j'acceptais, mais pour moi, c'était oui, très bien, je vais tenter quelque chose, peut-être que ça va me permettre de m'épanouir autrement que à ce moment-là, quand j'ai accepté, je donnais vraiment des cours de skate à plein temps, quoi. Et c'était très bien, mais à la fois, je voyais que c'était un skate relativement académique qu'on me demandait souvent, qu'il fallait que j'enseigne et tout ça. Et là, je sais pas, ça, c'était vraiment juste la vision purement artistique du skate, où vraiment on pouvait retrouver quelque chose que j'ai toujours vu, où pour moi, le skate, c'est l'outil du skate, c'est comme si on avait un crayon dans la main et qu'on peut dessiner un petit peu tout ce qu'on veut. Et que là, pour moi, c'était ça qu'on allait faire, quoi. Et du coup, il fallait que j'accepte directement, quoi. Ça me permettait de m'épanouir.
Moi, je me souviens juste de trouillomètre à zéro que vous aviez juste avant la maquette et de votre smile juste après. Et là, je me suis dit, là, Pauline, bravo, parce que il y a une porte qui est ouverte. En plus, ce que vous avez fait à l'époque était génial, ça va être encore mieux. Maintenant, moi, j'ai une question à la fois pour vous deux avant de parler avec Benoît, parce que ça va s'enchaîner direct. En fait, c'est autant la danse, la chorégraphie est presque un art exact, c'est-à-dire que sauf problème physique, la chorégraphie se déroule normalement sans problème. Autant en skate, même avec du niveau, il y a un peu d'aléatoire, il y a une chute qui est possible. Comment est-ce que tous les trois, et peut-être surtout toi Pauline, comment est-ce que, sauf si c'est une écriture collective, comment est-ce que tu concilies la chute dans la chorégraphie ? Est-ce que tu chorégraphies la chute ? Mais ça, on va peut-être plus en reparler avec Benoît, mais comment est-ce que tu acceptes la chute possible dans une pièce où normalement c'est un peu millimétré ou c'est un peu...
Alors, c'est vrai qu'on, au sein de la compagnie avec Nolwenn, on aime bien créer des pièces très écrites. Néanmoins, on joue beaucoup en espace public aussi, donc on prend toujours en compte ce qui peut... des aléas qui peuvent arriver, comme un pigeon qui vient s'inviter sur scène, ou un chien qui vient en plein milieu de la pièce. Bon, du coup, on attache beaucoup d'importance sur le jeu et sur l'interprétation. On a travaillé avec une chorégraphe performeuse sur 3-4 jours, justement pour nous entraîner à pouvoir réagir et jouer avec tout ce qui peut arriver d'inattendu sur scène. Et la planche, elle fait partie de ces choses inattendues. Enfin, elle pourra partir à n'importe quel moment. Elle n'est pas scotchée à nos pieds, donc on prépare ça. Mais plus, sous forme de jeu. Après, il y a aussi, dans la partition, on va se donner des consignes. Mais on va se laisser quand même la possibilité de pouvoir improviser au sein de ces consignes. Ça, je ne sais pas si c'est très clair.
Et vous, les garçons, vous avez découvert des nouveaux muscles dans votre corps ou pas, en dansant?
Ouais, c'est surtout au niveau de la ceinture abdominale. Enfin, ça a changé un peu mon maintien, je pense. Et sans parler des muscles, je pense que par contre, les filles, enfin moi, m'ont débloqué vraiment des mouvements, surtout de la nuque, par exemple, et de la tête. Là où en skate, la plupart du temps, c'est très important d'être relativement rigide du haut du corps, relativement rigide en tout cas. Mais là, c'est vrai que c'était un peu le plus dur de libérer justement cette tête. Je pense que c'était ça, moi, vraiment, que vous m'avez fait découvrir, quoi.
Effectivement, il y a des muscles qu'on ne soupçonne pas. Pour pratiquer quand même, comme Damien, hein, pas mal le skateboard. Hein. Moi, j'en fais mon métier toute la semaine et aussi via des projets à l'étranger. Donc, je suis vraiment tout le temps sur le skate. Donc, assez sportif de base. Mais franchement, après une semaine de résidence, je suis cassé, quoi. Vraiment, le fait de sautiller, le fait de débloquer aussi des muscles avec attention et parfois justement en relâchant et en créant des énergies en fait dans le corps, ça fait vraiment des choses. Donc effectivement, la danse et le skate, donc c'est des choses qui sont artistiques, effectivement. Donc ça fait bizarre dans le corps. Ouais.
Ça a changé votre manière de skater un peu?
Ouais, pour moi, ça a changé la manière de skater. Déjà d'une, parce que je skate avec Damien plus régulièrement, donc il m'apporte beaucoup, ne serait-ce que dans ma progression à moi. Et effectivement, on peut rigoler avec vraiment très peu. Et même, j'en suis arrivé à, avec des petits exercices qu'on a fait ensemble, à les proposer dans mes cours de skate. Donc, c'est-à-dire avec pas grand-chose, faire des situations qui sont vraiment enrichissantes et rigolotes. Et ça, c'est la magie donc de la danse qui se joue en skate, en fait. C'est l'expression corporelle, tout simplement. Donc, quand on casse cette barrière, après, il y a plein de portes qui s'ouvrent à ça. Donc, ouais, ça a changé pour moi.
Et toi, Damien, tu retrouves du sens, en plus?
Je retrouve du sens. Ah oui, complètement. Ouais. Et tant dans nos temps de résidence que aussi dans nos temps de pédagogie, puisque du coup, on donne des ateliers aussi avec des gens de la troupe, soit dans des écoles, soit simplement à des particuliers. C'est vrai que du coup, la pédagogie qu'on apporte là est tellement plus libre. Vraiment, là, c'est du skate très, très libre, où on apprend des choses très farfelues, on va dire, en skate, qui sont... Voilà, on ne va pas apprendre à faire un kickflip, à faire tourner notre planche comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, quoi. Et là, c'est réellement, la plupart du temps, en plus, dans ces temps d'apprentissage, un vrai échange entre les élèves et nous, les pédagogues. Et au final, moi, j'apprends tout autant en voyant vraiment ce qu'une personne va proposer avec le skate où j'y aurais pas du tout pensé. Je trouve que ces temps de pédagogie offrent beaucoup plus ça qu'un cours de skate, on va dire, classique, quoi.
Ok. Benoît, toi, tu es parti de la chute.
Non mais, moi, je voudrais aussi dire, par contre, que j'ai repris le skate pour ce spectacle en juin dernier. Et je l'ai senti, hein. J'ai eu mal partout, je me suis égratigné partout, donc je pense que ça vaut vraiment dans les deux, deux cas en fait. C'est juste un. Et même là, puisque dans le spectacle, j'ai vraiment essayé de pratiquer pour passer de la danse au skate qui mobilise les muscles, les jambes de manière totalement différente aussi et organise des chemins et des façons de se tenir dans le corps qui sont aussi différentes. Et très vite, du coup, c'était comment je passe de l'un à l'autre, puisque. Parce que ça fait des blocages, en fait, enfin, des sortes de blocages, et c'est là où ça crée.
Donc toi, tu es parti de la chute?
Non, pour ce spectacle.
Ouais.
Non, je suis parti de...
Ah, tu m'as dit l'inverse. Non, en fait, je trahis, mais...
En fait, la chute...
Dans un dossier, tu parlais de cet épisode où tu es à Chicago avec des potes, et que les potes voient des skateurs... qui se vautrent et disent bon, ils sont pas très bons ceux-là, oh, sauf que c'était du top niveau.
Ouais, non, c'était...
Mais ils ne savaient pas que le skate, c'est 90% de chute avant de...
Mais c'est je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans le skateboard, c'est ce rapport à l'humilité, c'est cette persévérance dans l'échec en fait, que je trouve hyper constructive en fait. Et extrêmement, on parle souvent le skate contre-culture, mais en fait c'est une contre-culture ultra bénéfique puisque en fait on cherche toujours un rapport productif, on cherche toujours à être ce fameux meilleur, et en fait cette valorisation de l'échec, elle est, en fait moi je la trouve super belle. Oui, alors cette histoire, c'est j'étais alors c'était à l'époque, donc c'était ma belle famille, j'étais avec mon ex, était américaine, on était à Washington devant la National Gallery, et il y avait donc grosse galerie d'art, et il y avait ils avaient monté des énormes modules, et ça envoyait quand même du lourd, et le mari de la mère de mon ami, qui savait que j'avais fait du skate, il me dit mais c'est vraiment si difficile que ça, hein, parce qu'il rate beaucoup quand même. C'était quasiment tous des pros, et je trouvais ça beau en fait, ce truc où bah oui, peut-être là avec les JO, il y a un rapport où les games, les gens, ils ont cette vision du skate à la télé où d'un coup ça tout s'enchaîne, mais en fait c'est pas vraiment ça l'essence du truc. Et la deuxième partie est vraiment basée sur l'échec en fait. Et tu parlais de donc moi je fais des pièces qui sont plutôt je travaille plutôt dans le minimalisme, dans un rapport entre danse et sculpture. Et je suis vraiment sur des jeux d'équilibre où ça peut vraiment s'écrouler. La compagnie développe vraiment un travail autour du risque de la chute. Et c'est aussi ce qui a fait que je me dis, en fait, tout ça, ça vient du skateboard. Mais donc, c'est ultra apprécié. Là, hier, je jouais Nouage, qui est une présente pièce, où ça ne me demande pas du tout la même préparation, la même concentration. Et moi, j'adore ce projet que je suis en train de faire, parce qu'il m'excite dans ce côté. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. C'est d'y aller. Quoi. Là, donc la musique est créée par Nicolas Marsan. C'est peut-être devant, en fait. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Donc là, deuxième partie, elle commence, je fais une figure. Au début, je voulais, c'était un 3-6 flip. Puis en fait, finalement, c'est un varial flip que j'aime. Et des fois, ça passe pas. Alors, au début, je vous raconte pas, parce que si vous en avez, ça peut marcher. Mais en fait, ça peut mettre entre 2 et 4 minutes à ce que je la passe. Il y a rien. Et je suis juste devant. Et là, je reviens. Donc, j'étais 3 semaines en Suède pour travailler ce projet. Donc, j'ai fait des présentations dans différentes villes. Et ça marche parce que donc je m'écrabouille au sol. Donc, il y a un vrai rapport à la chute. Je cherche ça aussi, un rapport à une certaine forme de douleur. Et de même moi, en fait, à un moment, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que bah, on commence à voir les jambes atrophiées, on commence à s'énerver. Il y a clairement une espèce de malaise qui s'opère dans le public. Les gens sont là, mais en fait, ils veulent pas partir. Ils sont en même temps totalement avec moi. En même temps, ils disent, mais c'est long quand même. Et à la fin, c'est cette extase de la victoire. C'est exactement comme quand on réussit une figure en fait. Et c'était ça que j'avais envie de faire ressentir en fait. Et même moi, du coup, je me mets sur un rapport au défi, ça m'amuse. Et après, c'est une espèce de slow motion de chute, qui est tout ce qui se passe dans ce côté évanescent de la chute, en fait, dont je parlais au début. Pardon.
Et c'est un projet que tu veux qu'on va tourner aussi, notamment au niveau du collège, dans une classe, parce que la chute, c'est aussi un symbole. C'est la chute, la rechute, et à un moment, c'est savoir se relever. Et savoir se convaincre qu'on est capable et qu'on se donne toutes ses capacités pour réussir à passer le truc. Ça vaut pour un examen, ça vaut pour... C'est ça, en fait, le fond de ça.
Bah, ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise il y a 25 ans. Mais oui, en fait, parce que ce projet est un projet tout public, mais ça m'arrive assez régulièrement d'intervenir, faire un workshop, un atelier dans un collège. Et j'ai développé une sensibilité pour les collégiens assez profonde, où je me dis c'est quand même l'âge le plus ingrat, c'est dur, ils sont violents, et moi, donc, comme je disais, on m'a mis dans la catégorie mauvais élève, enfin le collège a été bien compliqué, et je me suis dit en fait peut-être je vais y aller et essayer de faire passer quelque chose que peut-être moi j'aurais voulu entendre ou pas, parce qu'en effet, quand on passe ton temps, voilà, comme je disais, non mais tu vas jamais y arriver, non mais vas-y, choisis autre chose, non t'es pas littéraire, en fait c'est cette phase où tout le monde décide pour toi en permanence alors que toi tu sais même pas qui tu es en fait, c'est quand même dingue, non? Et en fait ça m'intéressait de ramener ce discours, qui est pas forcément un discours qu'on peut forcément, voilà, entendre à l'école. Et puis aussi parce que j'avais envie que ce spectacle, comme je disais, je fais des pièces, elles migrent de différents endroits, mais j'avais envie que ça puisse jouer n'importe où. Il y a ces trois petits modules, sculptures, ils délimitent mon espace, et voilà, et si c'était là, si c'est dans le hall, si c'est... J'ai envie de vraiment... Putain, il y a un skate. Qu'est-ce qu'il fout là, ce skateboarder en fait? Pourquoi il y en a quelqu'un? Et en fait, ça part comme une histoire. Au début, j'avais imaginé ce spectacle comme une sorte de conférence chorégraphique. Puis, enfin, je me suis dit, non, c'est une sorte d'histoire. Là, il y a un peu de voix off. Des fois, il y a des petits passages en voix live. Mais c'était le rapport à cette confession, en fait, qui m'intéressait. Et que je pense, j'espère que ça va résonner chez les collégiens. J'espère.
À une époque où on est un peu en déséquilibre, où on cherche un équilibre, quoi.
Ouais.
Tu es passé aussi par une école de cirque.
Oui.
L'école du Lido à Toulouse.
Uh-huh.
Et puis tu es devenu danseur.
Ouais, alors je faisais plutôt du cirque un peu avant. Après,
pas au collège. Hein,
non, mais si, un peu avant en fait. Cirque, quand j'avais. Après, il y a le skateboard, comme je raconte, et après, il y a le cirque. Et de le cirque, ce qui m'intéressait, c'est que c'était une pratique qui était assez autodidacte, que je pouvais faire de manière un peu autodidacte, qui s'approchait du skateboard, et qui était pour moi un lieu de tous les possibles, puisqu'à l'époque, ça mélangeait vraiment la danse, le théâtre. Et puis, donc, je me suis énormément formé en autodidacte. Puis, j'ai fait le Centre des Arts du Cirque de Toulouse, le
Lido. Quand on parle des Arts du Cirque, je préfère préciser, on n'est pas, c'est pas Zapata.
Non, pas du tout. Ouais.
Debout sur un cheval.
Non.
Bozo le clown. C'est pas ça, les Arts du Cirque. On parle de cirque moderne avec...
Ouais, puis le Lido, c'est une école, c'est une école internationale.
Oui, bah, c'était 15, pas des costumes.
On était sur la promo de 12, on était 6 Français. Ça vient de partout. Et on rentre avec une discipline. Donc moi, à l'époque, c'était le jonglage. Et jonglage objet. Et un projet très spécifique. Hein. Donc on ne touche pas à tout. C'est vraiment une sorte d'école des beaux-arts, version cirque. Et puis, en fait, à un moment, le cirque me bloquait. Et puis j'ai commencé à travailler dans la danse. Mais en fait, il y a quelque chose aussi qui s'est passé, c'est que j'ai donc du jonglage, le cirque, il y a le rapport à la douleur du skateboard qui est revenu. C'est-à-dire qu'en fait, très facilement, au début, j'ai commencé à travailler, à faire des workshops chez Van de Kebu, chez Ultima Bess, La Marche et Brumachon. C'est-à-dire c'est des danses, on se jette partout. Et généralement, au bout d'un training de 4 heures, on a les genoux brûlés, un peu en sang, les pieds, les épaules. Et j'étais là, ah mais je connais ça. Et en fait, mon corps était là. Et la danse s'est faite un peu par cet engagement de dire, on y va. Et j'étais avec des danseurs qui avaient des formations classiques ou qui sortaient vraiment d'école. Et moi, je suis là, ouais, vas-y. Et de retrouver cette énergie du skateboard, en fait. Et la connexion, elle s'est faite par un rapport de corps, en fait, de sensitif.
Et de douleur.
Oui, il y a une douleur, oui, on peut dire une douleur, oui. Mais que... Oui. Mais ici, il y a des pratiques.
Et Pauline, sur cette, toi aussi, tu as choisi qu'il y ait des modules sur scène. Est-ce qu'on peut faire du skate sans module? Est-ce que ça peut se concevoir? Ou est-ce que c'est quand même au début? Est-ce que c'est un petit refuge de savoir qu'il y a un module? Est-ce que c'est un truc un peu technique pour gagner de la vitesse? Parce qu'en fait, beaucoup les spectacles de danse avec du skateboard, il y a un module ou des modules symboliques, petits. Là, c'est les demi-modules qu'il y a, non? C'est des demi-rampes ou des trucs comme ça qu'il va y avoir dans Fiscal? Ouais, c'est ça.
Oui, en fait, à la base, au début, on a travaillé sans module. Et donc, on s'est vraiment attaché à comment on pouvait détourner l'objet de la planche, l'objet du skate. Donc, c'est devenu un instrument de musique, c'est devenu une coiffe, c'est devenu un objet qui crée du lien physique entre nous. Enfin, c'est devenu plein d'autres choses. Mais au niveau de... En fait, j'avais envie, pour moi, que quelque chose nous ramène toujours vers le centre. Et pour moi, la notion d'équilibre, je le vois un peu comme une mini-rampe, ou une grosse rampe, peu importe. Mais il y a quelque chose dans l'équilibre qui fait tout le temps comme ça, qui vacille tout le temps, et qui est tout le temps en mouvement. Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait ces courbes, en fait... juste physiquement quelque chose qui nous ramène toujours vers le centre et qui nous donne de l'élan et pour pas qu'on puisse s'échapper dans les coulisses. Voilà.
C'est un peu une chorégraphie de l'espace aussi, en fait, c'est d'avoir son espace à soi.
C'est ça. C'est ça, oui, ça meuble, ça meuble l'espace, ça le remplit, ça le nourrit, relief, ça, ouais, okay. Ça crée du relief, différents niveaux. Pour nous, c'est un terrain de jeu aussi qui est super chouette. Et là, en plus, ils vont être pimpés, ils vont ressembler à des vieux meubles bretons.
La classe.
Ça va être enchaîne incroyable.
Je suis sûr que vous avez des questions après la performance de Benoît et aussi à poser à l'équipe de Roary. Enfin, quand je dis je suis sûr, j'espère que vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps. Par rapport à ce que vous avez vu là, dans les 10 minutes, est-ce que vous avez envie de revenir voir le spectacle en entier ? Ouais, cool. C'est plutôt positif, c'est bon. Est-ce que vous avez envie de raconter des trucs, de dire des trucs ?
Oui, par rapport au module, pourquoi pas ? Je prends celui-là ? C'est le tien. Oh, ok.
Bah effectivement, donc tu as émis le sujet des modules. Moi, je tiens à rebondir là-dessus parce que effectivement, c'est un peu comme une petite maison aussi. C'est-à-dire que un petit refuge, petite maison, une maisonnette, cottage, tout ça quoi. L'idée, mine de rien, il y a quand même pas mal de figures qu'on peut faire et qu'on peut pas faire aussi, qu'on n'a pas de module. Le fait d'avoir des volumes et de créer de la vitesse ou alors des variations de niveau, effectivement, ça nous permet de potentiellement gagner en amplitude ou alors aussi créer des techniques sous forme de combos. Donc, bien sûr, beaucoup de choses peuvent se faire donc sans module de skate. On a travaillé beaucoup là-dessus et c'est pas évident hein, pour moi personnellement qui n'ai pas non plus danseur aussi lointain que Pauline quoi, qui danse depuis tout le temps avec ses pieds tout ça quoi. Et effectivement, non, je la répéterai pas avec ses pieds et ses mains. Et donc le fait d'avoir des modules, et ben c'est plutôt pas mal pour pouvoir mettre en scène aussi des gestes, des mouvements qui sont très propres au skate, mais aussi donc qui sortent des codes quand on les retrouve sur scène. C'est ça. Est-ce que Monsieur Damien, tu as quelque chose par rapport au module ?
Ben moi je rebondis sur ce que tu dis que c'était une petite maison. Effectivement. Ah oui. Je pense que pour ma part, moi, c'était très confortable d'avoir des modules sur scène parce que je retrouvais un petit peu quelque chose ben, du milieu que je connais, alors que la scène, pour le coup, ben, je ne connais pas très bien. Et
un refuge, donc.
Un refuge complètement, ouais, qui correspond à mes codes. Après, pour autant, je revendique que, enfin, je trouve ça assez passionnant, justement, de se mettre la contrainte de ne pas avoir de module, en l'occurrence en skate. Déjà, ne pas oublier que le skate originel, enfin, le freestyle, en tout cas, à la base, était vraiment uniquement sur du sol. Et que même le module, il peut venir de notre tête, en fait. C'est vraiment notre imaginaire qui va pouvoir voir un module à un endroit où au final, il n'y a rien d'autre qu'un banc ou qu'un trottoir ou quelque chose comme ça. Donc là, les modules apportent réellement quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que, pour moi, le skate, c'est assez passionnant de plus en plus de le réfléchir comme déjà pas dépendant du béton. Ça, c'est... Enfin, aujourd'hui, je trouve ça très important vraiment de réfléchir à ça autrement. Et bref, en tout cas, le skate n'est pas forcément dépendant de ces modules. Et c'est assez intéressant même de voir nos modules comme... effectivement, c'est juste des quarters, donc c'est juste une courbe. Mais au final, d'une courbe, on a trois angles sur les autres côtés. On peut les utiliser de plein de manières. C'est pas juste une pente sur laquelle on va monter et descendre ou faire un trick au coping sur la barre métallique qui est en haut. On s'est fait par exemple des temps d'improvisation où on a placé les modules de manière les plus aléatoires possible en demandant à des personnes qui ne faisaient pas du skate justement comment vous voudriez les mettre. Et en plus, ils sont sur roulette, donc des fois même juste on les poussait et on attendait de voir dans quelle position ils se mettaient. Et de cette contrainte naît du coup un tout nouvel imaginaire de qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Qui fait que c'est pas des modules comme dans un skatepark qui vont être faits spécifiquement pour être efficaces et pour que ce soit facile à skater et agréable à skater. Donc voilà, c'était ça que je voulais rajouter.
Moi, je veux bien poursuivre puisque j'ai pas du tout pris le même chemin. C'était évident qu'il y ait des modules. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une scénographie puisqu'ils sont, au fur et à mesure des parties, ils sont transformés. Et je les ai
pas tellement étudié pour le skateboard. Je me suis dit, bah, je m'adapterai en fait comme un trottoir n'est pas fait pour le skateboard. Mais ils sont vraiment empreints de la sculpture minimaliste. C'est vraiment des formes que j'ai puisées un peu chez Donald Judd, les pères du minimalisme américain comme ça. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi que je voulais récupérer le. Bah, c'est un triangle, un rectangle, un rond qui est vraiment un peu les jeux de base pour enfants. Pour composer. Et ce qui m'intéressait, c'est de ramener cette notion vitale du jeu comme moyen d'expression, et propre au skateboard aussi, par cette scénographie. Et la fin du spectacle, ils sont juste posés comme ça en ligne, ils forment une sorte de paysage. Mais c'est,
dis pas la fin.
Ah ouais, wow, de toute façon, vous aurez oublié d'ici là. Non, mais, et ça m'intéressait de ramener ça, parce qu'en fait, les modules, c'est une aire de jeu. Et de comment on symbolise l'aire de jeu de manière la plus générique possible. Voilà, ça m'intéressait, mais en vrai, c'est aussi un refuge. Et t'es là pour pas être perdu dans l'espace. Et moi, il devait rentrer dans deux valises.
C'est un peu plus compliqué.
Je dois reposer la question parce que c'est enregistré. Jouer avec les modules de façon aléatoire. Comment faire autre chose que monter et descendre ?
Bah déjà, par exemple, il faut imaginer la première position dans laquelle on l'a mis, par exemple. On avait une courbe qui était, on va dire, qui nous orientait par là-bas si on la prenait. Et l'autre était placée juste derrière dans le même sens. Donc techniquement, la deuxième, on ne pouvait pas vraiment la skater telle qu'on le fait d'habitude, puisque on n'avait pas d'élan pour aller... C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous bouchait l'élan pour aller vers cette courbe. Donc là, par exemple, on s'est amusé à sauter la première courbe pour arriver sur la deuxième, ce qui n'a pas de sens dans un skatepark. Ça n'existe pas, quelque chose comme ça. Et c'est même pas très pratique, mais voilà. Ça peut être aussi... dans notre dernière résidence, on les a placés pas tout à fait face à face, un petit peu comme une mini-rampe, mais on les a décalés... On les a décalés les deux modules de cette manière, où elles n'étaient pas face à face. Et un matin, pour se chauffer, je sais pas, moi je suis allé dans les deux cours, mais juste j'ai essayé de faire des virages, des kick turns, et d'essayer d'enchaîner le plus de virages comme ça à la suite, alors que les courbes ne m'orientaient pas. Une courbe ne m'orientait pas du tout vers la deuxième courbe, donc c'était vraiment essayer de réadapter sa trajectoire à chaque fois, alors que les modules en eux-mêmes ne voulaient pas du tout que je fasse ce truc-là. Et voilà, il y a eu cette forme-là. Enfin, je sais pas, est-ce que tu te souviens d'autres formes qu'on a ? Ouais.
Pour ce qui était un module, donc il y a la façon la plus commune qu'on connaît, donc sur les roulettes ou quoi. Mais il y a aussi la possibilité de le faire parfois en quittant le skate, en remontant dessus. Donc c'est-à-dire de créer des possibilités, presque revenir en fait à l'essence un peu du skate à l'époque, quoi. Comme pourquoi pas faire un foot plante ou quoi que ce soit. En fait, il y a des connexions de figures qui se font et ça permet donc de créer. La chance de skater les modules encore plus différemment si on imagine qu'il y a un moment où on passe sur pied plat avant de redropper dans n'importe quel sens, quoi. Et c'est assez chouette. Donc les modules en eux-mêmes offrent des formes géométriques. Et donc en les mettant dans plein de sens différents, ça change aussi. Donc ça peut faire des dessins, des chapeaux, des trucs. Mais effectivement, il y a plein de façons de détourner l'objet tel qu'on le connaît, et je pense qu'on a essayé de le faire. On le change 4 ou 5 fois de forme dans la pièce de 50 minutes. On essaiera de faire.
Et aussi, les modules deviennent eux-mêmes des objets roulants. On a créé, Jean-Marie de Planquinou-Ruil, à l'assaut à Mélac, a créé un système de modules qu'on peut, avec l'aide d'une clé, monter sur roulette. Et donc, du coup... avec l'aide de deux minimum, enfin une ou deux personnes, faire rouler le module et se poser dessus et du coup skater en fait carrément le module. On a essayé de détourner un maximum de choses.
Pour prolonger cette discussion qui finit un peu bizarrement, moi je voudrais inviter un autre skater qui surfe des modules qui bougent tout le temps. Et en plus, il skate dans l'eau, ça s'appelle un surfeur. Hugo, tu peux nous rejoindre quelques minutes ? Bah oui, parce que c'est encore plus compliqué. Donc Hugo Tosetti, en fait, qui est un freerider installé en Pays Bigoudin, et c'est un bout à bout, un montage d'une heure de son projet Chromance que vous pouvez voir en boucle pendant tout le festival, qui va démarrer tout de suite. Et je voulais quand même lui passer un peu la parole. Toi, tu chorégraphies ton espace aussi finalement sur un longboard.
Ouais, il marche bien.
Ah ouais. Okay.
Ouais, alors moi surtout sur un longboard, en fait on est très dépendant de la vague, donc toujours dépendant des conditions.
La vague, c'est l'espèce de module mou qui bouge tout le temps.
C'est ouais. Ça, mou ou creux, ça dépend mou du banc de sable, donc du fond de l'eau. Mais non, en général en longboard on se laisse plutôt glisser et voir ce que peut nous proposer la vague, plutôt que de chorégraphier. Quand on rame sur la vague, on peut avoir déjà une idée de comment aborder les choses. Mais principalement, ça va être plutôt place à l'inconnu et voir un peu comment on peut évoluer dessus. Quoi.
Okay. Ça, c'était pour la transition. Chromance, le projet Chromance, il est né comment? Et t'en es où aujourd'hui de ce projet-là?
Alors, il est né dans ma chambre, ce projet, pendant une année de BTS Communication que je faisais à Lorient, pas très loin d'ici. Et en fait, c'était... une sorte de projet un petit peu à la base sans grande attente. C'était plus en fait un projet vidéo, faire une sorte de court-métrage, environ, j'allais dire une quarantaine de minutes, qui parlait du surf, de ce que je pensais à ce moment-là. Donc j'étais plus dans une transition longboard, shortboard, twin fin, single, bonzer. Et en fait, je me cherchais un petit peu, je voyais beaucoup de planches venir un petit peu tendance, donc des twin fin, des single fin. Et moi, je commençais à attendre un petit peu plus sur ce modèle-là de planches, donc des choses un peu plus concrètes, authentiques, moins un petit peu des machines. Et au final, maintenant en tout cas, je suis toujours un peu dans ce cercle-là et je me prends un peu moins la tête, juste dès que les vagues sont d'une telle façon, je vais surfer d'une autre façon, etc. Et donc voilà, et en fait ce projet il a pris une ampleur un peu plus importante parce que j'étais avec un ami qui m'aidait sur tout le premier volume. Donc en fait j'avais comme premier volume une année en termes de base de durée. Et en fait on a fait un peu des vidéos par rapport au shortboard, par rapport au longboard, ce que je pensais, sans après avoir une manière de penser très fermée. Mais expliquer un petit peu ce que représentaient ces supports à ma personne et à mon expérience dans le surf. Et en fait, j'ai essayé de professionnaliser un petit peu plus ce projet-là pour montrer aussi qu'il n'y a pas que le surf dans la vie, il y a aussi autre chose, et aborder la thématique de la passion dans le sport. Et donc maintenant, j'utilise un petit peu comme slogan, on va dire, la passion crée le progrès, parce que je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de mes entraînements je suis assez jeune, hein. Mais quand j'étais un peu plus jeune, j'étais au Pôle Espoir et en fait, je m'écartais plus de cette passion pour rejoindre la performance. Et en fait, je reconnaissais plus vraiment le sport que je pratiquais et je m'éloignais vraiment de l'essence même qui était le surf à mes yeux. Et donc, en fait, c'était tout une sorte de gros mix que j'ai essayé de faire à travers Chromance. Et donc voilà, maintenant, je le filme plus... indépendamment, parce qu'avant c'était plus mon père qui me filmait quand j'étais sur l'eau, et maintenant je m'intéresse à plus de sport, je m'intéresse à des photographes, donc Jean-Baptiste qui me filme beaucoup dans l'eau, connu sous le nom de Jibin, si c'est quelqu'un dans la salle s'y oppose. Mais donc voilà, et en fait c'est essayer de transcrire la passion que j'ai pour le sport à travers d'autres gens. Et surtout à travers mon œil dans la vidéo et dans la photo. J'ai aussi un ami qui fait du golf. Bon, après, ça, c'est encore différent, mais c'est aussi montrer... en fait, c'est les mêmes choses, mais qui tendent sur d'autres sports. Et en fait, montrer que la passion s'adapte en fait, à chaque sport et à chacun. Et donc, voilà, un peu pour le résumé assez bref de Chromance, pour l'instant.
Donc, c'est un bout à bout, là, que tu nous as proposé. C'est environ une heure.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une mixtape. Donc, en première partie, c'est, on va dire, un gros résumé du volume 1. Donc, entre l'Australie, le shortboard, le longboard. Et plus récemment, le volume 2. Donc, il y a de la piscine à vagues. Parce que c'était par rapport à un événement auquel j'ai été invité. Et très, très intéressant à surfer. Mais très côté performance. Donc, l'expérience est très sympa à faire, Mais plusieurs débats y sont
par rapport à ça. Donc la piscine à vagues, c'est donc les modules mous qui bougent dans tous les sens.
C'est ça.
Et en plus, c'est dans un parc fermé. C'est même pas dans un vrai océan.
Ouais, exactement. Ouais. Donc on est moins tributaire en fait de la météo.
C'est un skatepark des surfeurs.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc en fait, il y a des Suisses.
Payants.
Ouais, hyper payants. Ouais. Et en fait, y a des surfeurs suisses, enfin si on peut appeler ça surfeur du coup, qui en fait surfent ou plus ou moins skate la vague et surfent super bien la vague, tandis que des gens qui surfent plus des vraies vagues dans l'océan, qui sont complètement perdus parce que en fait ils apprennent la vague vu que la vague est toujours la même, et en fait on perd justement cette chose-là un peu plus naturelle, plus authentique quoi du surf. Et donc pour l'expérience c'était très bien à sentir et à voir. Mais bon, j'y retournerai si jamais je suis invité, mais de mon propre gré, je n'irai pas spécialement. Et donc voilà, après, il y a un petit peu de vagues d'été, des vagues d'hiver dans cette mixtape. Et ouais, j'ai essayé de faire ça pour essayer de faire transpirer un peu l'univers de Cromance à travers une vidéo d'une minute, d'une heure, pardon. Et donc voilà.
Prochain projet ?
Prochain projet, pour l'instant... je suis sur Mathieu Maréchal qui fait du longboard, mais ça prend un peu de temps parce qu'on n'arrive pas trop à se caler sur nos plannings. Je m'intéresse aussi à un pêcheur, bodyboarder et tennisman, donc quelqu'un d'hyper polyvalent. Et en fait, là, on voit à travers cette personne-là que la passion elle est multiple sur différents supports et différents sports. Et c'est quelque chose de super intéressant et quelque chose qui me passionne énormément parce que, en fait, il n'y a pas une passion ou un sport ou une activité qui prend le dessus sur les autres. Et je trouve ça assez fou. Et aussi de dédier autant de temps à chaque facette, un petit peu de chaque sport, en plus du travail. Et donc, ouais, c'est quelque chose de très passionnant auquel je prends goût à filmer, quoi.
Bah, merci beaucoup, Hugo.
Et merci à vous.
Merci à l'équipe de Fiscal. Merci aussi à Benoît. Et je profite d'avoir le micro, enfin, je l'ai tout le temps, pour remercier aussi Romain de Marek Productions qui est en train de réaliser un petit film sur le festival. Donc, sera bientôt édité quoi, dans les semaines qui suivent. Donc, peut-être que vous pourrez vous voir. On verra bien. Où on fout tous les visages aussi. Dans un quart d'heure, on aura la projection de Pumping Swell in the Sahel, un film de Laurent Meillant ou avec un featuring d'Erwan Simon. Ce sera à 16h, c'est ça, si ma mémoire est bonne, donc dans un quart d'heure. Merci beaucoup. Merci. Et donc, évidemment, on commence avec Fiscal le 2 mars. Avant ça, si ça vous dit, le 24 janvier, on co-organise avec Trio, le théâtre Saint-Jacques-le-Christ, mais ici, un spectacle qui s'appelle Derby, sur le roller derby. Et la pièce est démentielle. C'est une équipe féminine de derby, mais c'est une pièce de théâtre en soi, mais il y a une vraie piste de derby au milieu. Le spectacle est incroyable. C'est une grosse claque. Venez le 24 janvier 20h30. C'est un jeudi. Fiscal, c'est le dimanche 2 mars à 17h. Et What We Talk About, When We Talk About Skateboarding ou Comment Je Suis Devenu Danseur, c'est le dimanche 27 avril. Il y a deux séances prévues, 15h et 18h, parce qu'on serait en petite jauge. On ne sait pas encore si ça va jouer sur scène ou hors scène. Ou c'est une création, on verra. Mais voilà, venez nombreuses et nombreux. À tout à l'heure, merci pour votre écoute.
Et merci Xavier pour le soutien accordé aux compagnies. Et
you're welcome.
C'est super précieux et c'est très, voilà, vous avez de la chance d'avoir un très beau théâtre comme ça avec beaucoup de dynamisme. Donc merci énormément.
On aime ça, merci.